Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous avons ce soir le plaisir d'avoir notre directeur Patrick Peter qui va nous dire quelques mots de bienvenue.
Merci, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de voir que l'amphithéâtre se remplit quand on a des exposés ici, donc c'est bien. Notre science semble intéresser tout le monde, j'en suis ravi. Et en plus, on a aujourd'hui Florent qui est une jeune recrue, comme on peut dire, qui a été recrutée il y a à peine 2 ans chez nous et qui va vous parler de tous les sujets qui sont très développés à l'IAP, que ce soit Euclide, que ce soit l'énergie noire, que ce soit l'intelligence artificielle. Enfin, vous voyez, il est expert dans plein de choses. C'est assez remarquable. Et puis par ailleurs, je vais m'excuser auprès de vous et auprès de lui de ne malheureusement pas pouvoir assister à cette conférence, mais c'est pas grave, comme elle sera sur YouTube, je la regarderai plus tard avec grand plaisir. Donc merci à vous, bienvenue à l'IAP, et je te redonne la parole, Florence.
Merci Patrick. Donc ce soir, d'abord je vous présente les conférences à venir jusqu'à l'été, il y en a encore 2. Donc le mardi 7 mai, ce sera Michel Mayor, prix Nobel de physique 2019, qui donnera une conférence, non pas ici, mais cette fois-ci dans l'auditorium du Centre international de conférences de Sorbonne Université, donc à Jussieu. C'est un très grand amphithéâtre, très beau, très tout neuf, enfin voilà, donc on avait envie d'avoir beaucoup de monde, et en plus surtout on était menacé de fermeture de cet amphi qui va être fermé pour travaux, mais simplement les travaux sont repoussés de mois en mois, et finalement il va encore être ouvert jusqu'à l'été, mais bon, on avait prévu ça, donc on garde ça. Donc Michel Mayor va nous parler d'autres mondes dans le cosmos, la recherche des planètes similaires à notre Terre et abritant peut-être la vie. Vous savez que les exoplanètes, évidemment, on a commencé par détecter des grandes planètes genre Jupiter et pas des petites planètes comme la Terre. Maintenant, on commence à détecter des exoplanètes de la taille de la Terre et donc c'est très impressionnant. Et puis, bien sûr, comme on a toujours en vue, derrière la tête, l'envie de trouver de la vie quelque part, ben voilà, c'est assez intéressant. Et nous restons dans les exoplanètes le mardi 4 juin avec Arnaud Cassan, enseignant-chercheur à l'IAP, qui va nous parler de la vie ailleurs, point d'interrogation. Il vient de publier un livre là-dessus et il signera son livre par la même occasion pour ceux d'entre vous que cela pourrait intéresser. Voilà. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Florent Leclerc, que je connais depuis très longtemps, enfin assez longtemps, disons. Donc Florent a fait ses études à l'École Polytechnique, il a fait un master en physique des hautes énergies, et puis il est venu faire sa thèse à l'IAP entre 2012 et 2015, sous la direction de Ben Van Delt. Ensuite, il a passé 2 ans à Portsmouth, et puis 4 ans à Londres, et il est maintenant chercheur CNRS depuis 2 ans à l'IAP. Donc aujourd'hui, il va nous parler d'énergie noire et d'intelligence artificielle, donc un sujet tout à fait brûlant. Donc voilà, bienvenue à toutes les personnes qui sont dans l'amphithéâtre, bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube, en direct ou en différé. Et pour ceux qui viennent d'arriver, il y a encore des places au premier rang en particulier, ou bien sur ce côté-là, ou bien au deuxième rang ici, donc ne restez pas debout. Voilà, merci à toi Florent.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup Florence pour l'introduction. Merci également, je vois Frédéric, Jean Tancrède pour la technique. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci à ceux qui sont face à moi et qui donc ont bravé la pluie pour venir me voir. Merci à vous sur YouTube également. Je voudrais parler ce soir d'énergie noire et d'intelligence artificielle, et c'est pour moi un grand plaisir de donner cette conférence, d'autant plus que je vois certains visages connus face à moi. J'ai organisé cette conférence en 2 parties, énergie noire et intelligence artificielle, avec une petite partie de transition entre les deux, où je vous parlerai du satellite Euclide et des données qu'on attend notamment. Commençons donc par... Pour le micro. Oui. Très bien. Commençons donc par l'énergie noire et par une question modeste. Quel sera le destin de notre univers ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Alors, pour tenter d'y répondre, je voudrais commencer par une analogie. Une analogie en physique, c'est la chute libre d'un corps avec une vitesse initiale. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe si je prends une balle et que je la lance vers le haut ? Alors, bon, vous allez me dire, elle va retomber. C'est effectivement le cas si vous le faites avec votre force humaine. Mais en fait, à vrai dire, il y a trois scénarios possibles. Vous la lancez pas très fort, vous la lancez très fort, ou un petit peu entre les deux. Et donc, le concept qui est important ici, c'est la vitesse de libération de cette balle. Si vous lancez cette balle exactement à la vitesse de libération, c'est le scénario ici, elle va arriver avec une vitesse nulle à l'infini. Si vous lancez avec une vitesse initiale plus petite que la vitesse de libération, eh bien cette balle va atteindre une hauteur maximale et retomber. C'est mon premier scénario ici. Et puis, dernière possibilité, si vous la lancez avec une vitesse initiale plus grande que la vitesse de libération, vous allez avoir une balle qui va arriver avec une vitesse non nulle à l'infini. Alors, ce qui est pertinent en physique pour décrire ce problème, c'est la notion d'énergie. Vous comparez l'énergie cinétique que vous communiquez à la balle avec son énergie potentielle qui lui vient, son énergie potentielle de pesanteur qui lui vient du champ gravitationnel. Et donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Donc, vous voyez ces jauges ici qui remplissent l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, quand une quantité est ici et dans tout ce qui va suivre, quand une quantité est positive, la jauge se remplit de gauche à droite, et quand cette quantité est négative, elle se remplit de droite à gauche. Donc trois scénarios possibles, vous disais-je, et donc dans tous les cas, on a une énergie cinétique plus une énergie potentielle qui est constante. Le premier scénario, c'est quand l'énergie cinétique initiale était trop faible et donc il reste de l'énergie potentielle au moment où la balle atteint sa hauteur maximale. Dans ce scénario ici, la balle se libère et il lui reste de l'énergie cinétique au moment où elle arrive à l'infini. Et puis dans ce cas-là, c'est le scénario où j'avais exactement une énergie cinétique qui vaut l'opposé de son énergie potentielle à tout moment. Voilà. Alors, quel est le rapport avec l'univers, vous allez me dire ? Eh bien, on va chercher pour l'univers une équation de conservation similaire, une équation de conservation de l'énergie en cosmologie. Et cette équation, elle porte le nom de première équation de Friedmann-Lemaître, du nom de deux chercheurs qui l'ont introduite. Alors, Alexandre Friedmann était un chercheur russe qui a travaillé au début du XXe siècle et qui était un des premiers à avoir très bien compris la relativité générale d'Einstein et d'avoir l'idée de l'appliquer à l'univers tout entier. Et puis cette équation est également associée au nom de Friedmann est mort assez tôt de la fièvre typhoïde, et donc il est associé en particulier à cette équation, mais n'a pas travaillé très longtemps. Et puis le deuxième personnage de cette histoire, c'est Georges Lemaître, un abbé belge, qui lui également a eu l'idée d'appliquer cette équation à l'univers tout entier et a introduit cette notion d'œuf primordial, ce qu'on appelle maintenant le Big Bang, mais c'était son vocabulaire de l'époque. Et donc, ces deux personnes ont l'idée que l'univers puisse avoir une dynamique, au contraire de l'idée d'Einstein, qui était que l'univers était statique. Et donc, un univers avec une dynamique est soit en contraction, soit en expansion. Donc, vous voyez ici que ça ne se passe pas exactement, si vous avez l'idée en tête d'un feu d'artifice, pour l'univers, ça ne se passe pas exactement comme ça. Il n'y a pas de centre si vous avez une expansion ou une contraction. Ça se passe plutôt, comme je vous le montre ici, sur ce réseau, où la maille de ce réseau se contracte ou se dilate avec le temps. Et donc, vous voyez qu'en particulier, au moment où tous les points sont concentrés, ici, l'expansion ne part pas d'un centre, mais part uniformément sur tous ces points. Et donc cette analogie avec un réseau me permet d'introduire la notion de facteur d'échelle qui va être importante pour la suite. Le facteur d'échelle, c'est simplement la maille de ce réseau qui se contracte ou qui se dilate avec le temps. Vous pouvez également penser à ce facteur d'échelle comme la distance moyenne entre deux galaxies dans l'univers qui va évoluer avec le temps. Et donc ce que nous dit cette première équation de Friedmann-Lemaître, c'est que comme pour la balle dont le destin retomber ou partir à l'infini est lié à son énergie, la première équation de Friedmann-Lemaître nous dit que le destin de l'univers est lié à deux termes ici qui font un petit peu le même genre de rôle que le terme d'énergie cinétique et le terme d'énergie potentielle. Elle nous dit « destin de l'univers égale dynamique moins la matière ». J'ai mis un point d'interrogation pour la suite, parce que vous allez le voir par la suite, il va y avoir un deuxième membre à cette équation. Mais donc, maintenant, la question est de savoir quels sont les termes de dynamique et de matière. Et donc, c'était la théorie. Maintenant, on parle un petit peu d'observation. Et on va faire le dialogue dans tout ce qui suit entre la théorie et les observations. Les observations de 1929 d'Edwin Hubble. Hubble mesure la vitesse d'éloignement des galaxies en fonction de leur distance. et il produit un diagramme qui ressemble à ceci. Donc, en ordonnée, vous avez la vitesse apparente d'éloignement des galaxies en fonction de leur distance, et il repère une belle loi de proportionnalité entre ces objets, la loi de Hubble-Lemaître de 1929, qui dit que cette vitesse apparente d'éloignement des galaxies est simplement proportionnelle à leur distance, avec un facteur entre les deux qui s'appelle H0 ici, et qui s'appelle la constante de Hubble. Donc, l'histoire de la mesure de la constante de Hubble, ça pourrait être une conférence à part entière, elle a beaucoup varié avec le temps. Maintenant, on mesure un H0 qui vaut environ 70 km par seconde par mégaparsec. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ça permet d'introduire l'unité des mégaparsecs. Donc, un parsec, ça correspond à peu près à 3 années-lumière. La distance est un mégaparsec, donc c'est un million de parsecs, donc environ 3 millions d'années-lumière, ça correspond à peu près à la distance moyenne entre deux galaxies. Et donc 70 km par seconde par mégaparsec, ça veut dire que si vous avez deux galaxies dans l'univers qui sont distantes distantes d'un mégaparsec, vous allez avoir l'impression que la vitesse d'éloignement apparente entre ces deux galaxies est de 70 km par seconde. Si elles sont distantes de 2 mégaparsecs, 140 km par seconde, etc. Et donc Hubble mesure que l'univers a une dynamique positive, c'est-à-dire que l'univers est en expansion. Alors maintenant, donc, revenons à mon analogie avec la balle, quels sont les destins possibles pour un univers en expansion? Eh bien, comme pour la balle, vous avez trois cas possibles. Soit l'univers avait une impulsion au départ qui était trop faible, soit un petit peu trop forte, soit exactement entre les deux, pour compenser son contenu en matière. Et donc, il y a là une notion qui est la notion de densité critique. Si vous avez un univers qui est exactement à la densité critique, c'est comme la balle qui a la vitesse de libération, vous allez avoir expansion égale matière tout le temps. Si vous avez un univers qui a plus que la densité critique, vous allez avoir moins d'expansion que de matière, et donc cet univers va atteindre un facteur d'échelle maximale et va se recontracter, comme la balle qui atteint une hauteur maximale et qui ensuite retombe. Et puis le dernier cas possible, c'est quand il y avait plus d'expansion au départ que de matière, et donc cet univers va continuer à s'étendre à l'infini, alors qu'il lui restera donc de l'énergie dans l'expansion, une fois que la matière sera complètement diluée. Du coup, maintenant, on peut regarder le facteur d'échelle en fonction du temps cosmique et voir que si on a un facteur d'échelle de 1 au temps 0, eh bien, l'univers est en dynamique, et en particulier, maintenant, l'univers a un âge fini. Vous voyez que le facteur d'échelle tombe à 0 à un temps fini, qu'on a simplement appelé le Big Bang. Et puis, ça me permet de répondre à la question qui est ma question de départ. Quel est le destin de notre univers? Eh bien, vous voyez qu'il y a trois scénarios possibles. Le premier où l'univers retombe, et donc recontraction, c'est ce qui s'appelle le Big Crunch, ou des scénarios où l'expansion continue pour toujours, qui s'appelle le Big Freeze, la mort thermique de l'univers. Alors maintenant, pour savoir dans quel scénario on a mesuré la dynamique, il faut mesurer le terme de matière, pour savoir si on a expansion moins matière, positif ou négatif. Donc, comment mesurer le contenu en matière? Alors, il se trouve qu'on peut peser les galaxies en mesurant en particulier leur vitesse de rotation. Ici, c'était une idée de l'astronome Zwicky et puis l'astronome américaine Vera Rubin, qui a une contribution très importante à ce domaine et qui donne son nom à un observatoire qui va très prochainement prendre des données au Chili, l'observatoire Vera Rubin, qui va nous apporter énormément de données en lien avec ce que je vous raconterai par la suite. Donc, Zwicky et Rubin se réalisent qu'on peut peser les galaxies en mesurant leur vitesse de rotation et en connaissant leur dynamique gravitationnelle, on peut remonter à la masse dans ces galaxies. Voilà, ça c'est à l'échelle des galaxies. À plus grande échelle, on peut également peser les galaxies en utilisant en particulier le lentillage gravitationnel, donc ces amas de galaxies lointains, quand il se passe quelque chose sur la ligne de visée, eh bien, la relativité générale, à nouveau, nous dit que les rayons lumineux vont être défléchis par les masses qui se trouvent sur la ligne de visée, ce qui produit des effets intéressants, par exemple, parfois certaines images multiples ou ces arcs gravitationnels qui sont ici. Ça, ce sont des images qui sont de galaxies d'arrière-plan qui sont distordues par la lentille, donc par des masses en avant-plan. Et donc, en utilisant cet effet, il est possible de remonter à la masse sur la ligne de visée et de mesurer le contenu en matière. Au final, on mesure que le terme de matière est positif. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise, vous me direz, on sait qu'il y a de la matière dans l'univers. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on mesure qu'il y a de la matière, oui, mais pas assez, en tout cas pas assez pour compenser l'expansion. À vrai dire, on mesure que le destin de l'univers, qui est d'après la première équation de Friedmann-Lemaître, expansion moins matière, est positif, et donc que notre univers sera pour toujours en expansion. Mais la première équation de Friedmann-Lemaître a aussi un membre de droite, et donc L'histoire ne s'arrête pas là. La première équation de Friedmann-Lemaître nous dit également que l'expansion moins la matière, c'est l'opposé de la courbure, moins courbure. Et donc c'est une prédiction spécifique de la relativité générale qui dit que le destin de l'univers est en fait lié à sa courbure, c'est-à-dire à sa géométrie spatiale. Alors, il se trouve qu'on peut mesurer le taux d'expansion et le contenu en matière, on vient d'en parler, mais on peut également mesurer la courbure indépendamment des deux autres. Donc on peut mesurer ces trois termes indépendamment, expansion, matière, courbure, et donc on peut tester ce modèle cosmologique. Alors je vous disais, on a mesuré que expansion moins matière est positif, et donc on s'attend donc à ce que la courbure soit négative. Alors, quel est l'effet de la courbure sur l'univers ? Vous avez plusieurs scénarios possibles. Le scénario le plus intuitif et bien connu, c'est la courbure nulle. La courbure nulle, c'est la géométrie euclidienne, c'est le scénario de l'univers plat. Le volume de l'univers dans ce scénario est infini. Comme dans la géométrie euclidienne, la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Les lignes que vous tracez parallèles localement vont rester parallèles à l'infini. Et puis la taille apparente des objets que vous regardez n'est pas modifiée par la courbe. Mais courbure positive ou courbure négative sont des choses aussi possibles. Donc courbure positive, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une géométrie sphérique, donc un volume fini, un univers qui est fermé. Et puis, comme à la surface d'une sphère, la somme des angles d'un triangle va valoir plus que de 180 degrés. Si vous tracez des lignes qui sont localement parallèles, elles vont finir par converger à l'infini. Et puis, les objets qui sont distants vont vous paraître plus gros. Ici, si vous regardez, vous avez l'impression que la taille apparente de cet objet, elle est définie ici par les traits pointillés. Vous avez l'impression d'avoir un objet plus gros que sa taille véritable que vous voyez en vert. Et puis enfin, courbure négative, ben c'est le scénario un petit peu opposé, c'est-à-dire que vous avez un espace qui est plutôt comme, non pas à la surface d'une sphère, mais sur une selle de cheval, une géométrie hyperbolique, donc le volume est infini, c'est un univers ouvert, la somme des angles d'un triangle vaut moins de 180 degrés, les lignes qui sont parallèles localement vont finir par diverger, et les objets distants vont vous paraître plus petits, comme vous le voyez illustré ici sur ce schéma. Donc, quelles sont les courbures spatiales possibles d'un univers qui est rempli uniquement de matière ? Alors, d'après la première équation de Friedmann-Lemaître, on a expansion moins matière égale moins courbure. Si je la réécris, expansion plus courbure égale matière. Et donc, si je reviens à mes trois scénarios possibles, ici, vous avez ici terme expansion moins matière négatif, donc on attend à courbure positif. Expansion moins matière positif, donc on s'attend à courbure négative. Et ici, c'est le cas où on est exactement à la densité critique, et donc on s'attend à ce que la courbure soit nulle. Donc les destins possibles de cet univers, c'est Big Freeze ou Big Crunch, je vous en ai parlé tout à l'heure, et ça correspond à leur destin correspond à la géométrie spatiale. Donc ici un univers ouvert, ici un univers exactement plat, et ici un univers fermé, suivant qu'on est à plus ou moins de la densité critique. Alors maintenant, est-ce que ceci est en cohérence avec les observations ? Eh bien, une façon de mesurer la géométrie spatiale de notre univers, c'est de regarder ce qui s'appelle le fond diffus cosmologique. Alors, le fond diffus cosmologique, c'est la première lumière de l'univers, on pourrait dire, qui a été émise 380 000 ans après le Big Bang. La découverte de ce fond diffus cosmologique a valu le prix Nobel à Arnaud Penzias et Wilson en 78. Ils regardaient des choses qui n'avaient absolument rien à voir en radio et ça a été une grosse surprise pour eux. Et puis donc ce fond diffus cosmologique est quasiment complètement homogène, c'est-à-dire qu'on voit exactement la même chose partout, sauf à de très petites fluctuations, et ces très petites fluctuations passionnent les cosmologistes depuis quelques décennies. En particulier, la découverte de ces fluctuations a valu le prix Nobel en 2006 à deux scientifiques américains, Mather et Smoot, qui analysaient les observations du satellite Kobe. Et puis la mesure les plus précises de ces fluctuations du fond diffus cosmologique, ça a été un des projets majeurs du satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, en particulier l'IAP était extrêmement impliqué dans l'analyse de ces données, qui a produit cette carte des fluctuations du fond diffus cosmologique. Vous regardez ici l'ensemble de la sphère céleste, hein, c'est ce qui s'appelle la projection de Mollwide ici. Si vous regardiez la Terre sur cette projection, c'est à ça que ça ressemblerait. Et il se trouve que donc en analysant extrêmement finement ces fluctuations du fond diffus cosmologique, on peut mesurer la courbure et donc la géométrie spatiale de notre univers. Et on mesure à une extrêmement grande précision que cette courbure vaut zéro, c'est-à-dire que nous sommes dans un univers plat. Alors si vous m'avez suivi jusqu'ici, on a un petit peu un problème. La première équation de Friedmann-Lemaître nous prédit que expansion moins matière égale moins courbure. Mais on mesure expansion moins matière positif et courbure égale zéro. Donc on a un problème ici, il nous manque un terme pour équilibrer les équations, et donc il nous faut un terme supplémentaire pour équilibrer, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. L'énergie noire est nécessaire pour accorder les observations du destin, qui est le premier terme, et de la courbure de l'univers. Et donc ce terme modifie l'équation de Friedmann-Lemaître, la première équation de Friedmann-Lemaître, de la manière à ce que expansion moins matière moins énergie noire vaut 0, qui vaut effectivement moins la courbure, qui elle-même est mesurée comme étant 0. Alors vous allez me dire, on peut mettre n'importe quoi comme énergie noire. Bon, on va toujours à la solution la plus simple au départ, donc la solution la plus simple au départ, c'est de supposer que ce terme est constant, et ne varie pas dans le temps, et donc que cette énergie noire est constante, et c'est ce qui s'appelle la constante cosmologique. Alors, quels sont les effets de cette énergie noire? Est-ce qu'on peut la mesurer en particulier? Maintenant, regardons la dynamique d'un univers avec une constante cosmologique. La première équation de Friedmann-Lemaître modifiée nous dit expansion moins matière moins énergie noire égale moins courbure, ou alors encore expansion plus courbure égale matière plus énergie noire. Et donc maintenant, j'ai quatre jauges dans mon problème. Alors, pour les trois premiers univers que je vous montre ici, ce sont les mêmes que tout à l'heure, ils n'ont pas d'énergie noire, mais le dernier a un terme d'énergie noire qui compense exactement expansion moins matière à tout moment, de manière à ce que la courbure vaille zéro. Donc cet univers bleu ici a une jauge d'énergie noire ici non nulle et constante avec le temps. Et bien, qu'est-ce qui se passe pour cet univers? Et bien, comme vous le voyez, il a un petit peu plus d'expansion dans le passé et il va être un petit peu plus vieux, autour de 13,8 milliards d'années maintenant. Et il aura plus d'expansion dans le futur que les modèles précédents que je vous ai montrés. Et donc, il va également finir avec une expansion qui ne s'arrête pas à l'infini et en Big Freeze, en mort thermique. Alors, que fait cette énergie noire si sa densité est constante à mesure que l'univers s'étend? Donc la matière c'est intuitif, la matière, à mesure que l'univers s'étend, la matière va se diluer. Mais la constante cosmologique, eh bien, on a dit qu'elle est constante, comme on l'a dit, comme on l'a introduit pour ça. Et donc cette constante cosmologique ne va pas se diluer avec le temps. Donc, je vous ai montré ici la matière avec des nuances de bleu qui se diluent à mesure que le temps passe. Mais la densité d'énergie de la constante cosmologique, elle, ne va pas varier avec le temps. Et donc j'ai utilisé la même nuance de gris ici. Donc si on trace cette densité d'énergie en fonction du temps, eh bien, vous avez ici une courbe pour la densité d'énergie de la matière qui va décroître avec le temps, et une droite ici, constante, pour la constante cosmologique. Et donc ça permet de définir deux aires dans l'histoire de l'univers. Une aire où il y a plus de bleu que de gris, c'est-à-dire plus de matière que de constante cosmologique, c'est l'aire qui va être dominée par la matière. Et puis ici, une aire où il y aura plus de constante cosmologique que de matière, et donc une aire dominée par la constante cosmologique. Alors la constante cosmologique ne se dilue pas. Donc on peut se dire qu'en quelque sorte, on a de la chance de voir déjà les effets de la constante cosmologique, parce que si on avait vécu beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'univers, on aurait été dans l'ère complètement dominée par la matière. Ça aurait été très compliqué de savoir qu'il y a une constante cosmologique. Mais par ailleurs, nous vivons déjà dans un univers qui est dominé par la constante cosmologique, donc c'est-à-dire que notre horizon cosmologique va diminuer, on voit de moins en moins de galaxies à mesure que le temps passe, et donc on va finir dans un état où finalement la Voie lactée sera toute seule dans son univers observable. Donc là on peut se dire également qu'on a de la chance qu'il y ait encore finalement des galaxies à observer dans notre univers. Donc là j'essaie de pointer du doigt sur le fait qu'il y a comme une coïncidence cosmique, qui est le fait qu'en fait nous vivons ici, le temps zéro est très proche de l'intersection de ces deux courbes, alors qu'on aurait pu être à un moment totalement quelconque de l'histoire de l'univers, soit dans une ère dominée par la matière, où on n'aurait pas vu la constante cosmologique, soit dans une ère dominée par la constante cosmologique, où on n'aurait pas vu les galaxies qui nous entourent. Bien, essayons d'aller un petit peu plus loin pour appréhender les effets de cette énergie noire. Et donc je vais revenir à l'analogie de la balle que j'envoie vers le haut et qui est attirée par la Terre. Donc j'ai introduit la notion d'énergie pour décrire ce problème tout à l'heure, mais pour ceux qui ont fait de la mécanique newtonienne, vous savez aussi très bien que c'est décrit par la notion de force. La Terre exerce une force sur la balle exerce une force sur la Terre, les deux sont en attraction, et la deuxième loi de Newton nous dit cette force, F égale ma, on l'a appris, F égale ma, ça veut dire force égale masse fois accélération. Alors si j'utilise les bonnes unités, disons simplement force égale accélération, c'est ce que nous dit Newton. Donc je voudrais un analogue pour l'univers, et ce sera cette deuxième équation de Friedmann-Lemaître qui va gouverner la dynamique cosmologique, comme le F égale ma gouverne la dynamique de ma balle. Donc par analogie avec la deuxième équation de Newton, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? Bon, ben, il y a de la matière, une certaine densité de matière, et qui est en contraction gravitationnelle, puisque là, donc, sous son effet autogravitant. Donc la force, je m'attends à ce que ce soit la densité, et cette densité, c'est une force de rappel sur l'univers, les choses ont tendance à vouloir s'attirer. Et donc je m'attendrai à ce que cette force, ce soit la décélération de l'univers. Donc une décélération, c'est l'opposé d'une accélération, donc je m'attendrai à ce que cette deuxième équation de Friedmann-Lemaître prenne la forme de accélération égale moins densité. Alors j'espère que vous avez suivi mon raisonnement jusque-là, et que vous êtes convaincus, parce que malheureusement, ce raisonnement ne va pas, cette équation est fausse, et je ne peux pas faire l'analogie ici avec la mécanique newtonienne pour vous expliquer vraiment l'effet de l'énergie noire. J'ai besoin d'utiliser la relativité générale qui nous dit qu'il y a en fait un terme de plus dans cette équation de la dynamique cosmologique. On n'a pas simplement accélération égale moins densité, mais on a accélération égale moins densité plus 3 fois la pression, ici, entre parenthèses. Ou si je dis qu'une tension, c'est l'opposé d'une pression, tension égale moins pression, on a densité moins 3 fois la tension, ici, entre mes parenthèses. Et donc, ce que dit la relativité générale, c'est que les forces de pression gravitent. Il n'y a pas d'équivalent en mécanique newtonienne. Si vous avez un système qui a des forces de pression, ça va exercer une attraction gravitationnelle sur son environnement. La tension est une pression négative, c'est ma définition de la tension, et l'énergie noire exerce donc une tension sur l'univers, on va le voir ensuite. Alors attention, l'accélération potentielle de l'expansion de l'univers ne provient pas de la densité de l'énergie noire. On a une densité de matière, on a une densité d'énergie noire. Donc, donc il faut que je vous explique un peu plus précisément ce que c'est qu'une pression, une tension à ce niveau-là. Donc, si on est à densité d'énergie constante, imaginez un cube ici qui est entre mes mains. Si vous avez des molécules qui tapent sur les parois de mon cube, c'est-à-dire s'il y a une pression positive dans ce cube, eh bien, pour contracter ce cube tout en maintenant une densité d'énergie constante, je suis obligé d'aller contre la pression de ces molécules qui tapent contre les parois du cube, et donc de pousser ces molécules vers l'intérieur, c'est-à-dire que je dois fournir un travail sur les parois de mon cube pour le contracter. Donc la contraction coûte de l'énergie. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une tension ou une pression négative ? Ben donc là, plutôt que d'imaginer des molécules qui tapent sur les parois de mon cube, il faut plutôt imaginer des élastiques qui tirent les parois de ce cube vers l'intérieur. Et donc là, c'est plutôt l'inverse, c'est que pour étendre ce cube, j'aurais besoin de fournir un travail, c'est-à-dire de fournir une énergie. Et donc, dans le premier cas, c'était la contraction qui coûte de l'énergie, quand on a pression positive. Dans le cas où on a pression négative ou tension, c'est l'expansion qui coûte de l'énergie. Dans les deux cas, la deuxième équation de Friedmann-Lemaître nous dit que toute densité, y compris la densité d'énergie noire, tend à décélérer l'expansion. C'est le terme de moins densité dont je vous parlais tout à l'heure. Mais on a un deuxième terme, moins densité, moins 3 fois tension, et donc on peut avoir accélération positive si la densité plus 3 fois la pression est négative, c'est-à-dire en fait si le rapport de pression sur densité vaut moins que moins un tiers. Alors c'est ce qu'on appelle le W en cosmologie, W égale pression sur densité, et donc on aura accélération si on a quelque chose qui est plus petit que moins un tiers. Alors pour la matière, l'univers est grand, hein, donc pour la matière, il n'y a quasiment pas de matière en fait, dans l'univers, tellement la matière est diluée, et donc la pression est à peu près nulle, c'est-à-dire qu'on a W égale 0. Mais par contre, pour la constante cosmologique, pour l'énergie noire, quand elle est constante, donc une constante cosmologique a une densité d'énergie constante et exerce également une tension. Pour des questions de conservation de la densité d'énergie, on prédit que le rapport pression sur densité doit valoir toujours moins 1. C'est-à-dire que la tension exercée par la constante cosmologique est exactement égale à la densité de constante cosmologique. Donc W égale 0 pour la matière, W égale moins 1 pour la constante cosmologique. Alors, on disait qu'on a besoin d'énergie noire pour équilibrer les observations du destin et de la courbure de l'univers, donc on prédit maintenant naturellement que l'univers doit être en expansion accélérée. Alors, est-ce que c'est effectivement le cas ? Donc, pour mesurer ça, un petit voyage maintenant observationnel à nouveau. Les types d'objets qui permettent de mesurer ça, en particulier, ce sont les supernovae. Donc les supernovae, ce sont des explosions d'étoiles en fin de vie. Vous voyez ici la nébuleuse du crabe, qui est la rémanence d'une supernovae qui a explosé dans la Voie lactée en 1054 et qui a été observée par les astronomes chinois en particulier. Et donc on observe des supernovae en particulier dans les galaxies lointaines. La dernière dans la Voie lactée était en 1987. On les observe dans ces galaxies lointaines. Ici, la galaxie du Cigare, où vous voyez un point qui apparaît là, subitement en janvier 2014. et un point qui est à peu près aussi lumineux que la galaxie tout entière. Alors ça dure quelques semaines, quelques mois. Et donc ces supernovées sont mesurables. Et en mesurant en particulier la magnitude de ces supernovées en fonction du facteur d'échelle, donc on trace un petit peu comme l'a fait Hubble dans les années 20, on trace un diagramme qui est très, très analogue au diagramme de Hubble, et on place ces points de mesure. Et donc la théorie nous dit qu'on doit avoir une frontière dans ce domaine entre un univers qui est en expansion décélérée, c'est la partie en rose, ou un univers qui est en expansion accélérée, c'est la partie en bleu. Et c'était une surprise en 1998 de mesurer que les points qui sont les plus, pour les supernovées qui sont les plus distantes, ces points de mesure sont un tout petit peu, mais significativement, au-dessus de la frontière de ce domaine, c'est-à-dire qu'on est en expansion accélérée. C'était une surprise et elle a valu elle-même un prix Nobel pour Ries, Schmidt, Perlmutter en 2011. Alors pour résumer, quels sont les effets de la constante cosmologique sur la courbure et sur la dynamique de l'univers ? Donc la constante cosmologique, c'est une forme d'énergie noire, la forme la plus simple, qui s'ajoute à la matière pour expliquer que la courbure est nulle. C'est la première équation de Friedmann-Lemaître. Expansion moins matière moins constante cosmologique égale zéro égale moins courbure. Donc la densité d'énergie de la constante cosmologique est constante. Elle exerce une tension qui est égale à sa densité et qui exerce un effet gravitationnel sur l'univers. C'est un effet gravitationnel purement relativiste, qui n'a pas d'équivalent newtonien, mais autant à mesure que l'univers est évolué, donc dans l'univers tardif, cet effet gravitationnel va être dominant. Au final, on a une gravité totale qui est répulsive, c'est-à-dire que densité moins 3 fois tension est négatif, et donc cette constante cosmologique est la cause de l'accélération de l'expansion dans l'univers tardif, où le terme d'accélération va valoir deux fois la constante cosmologique moins la densité de matière, deux fois la tension exercée par la constante cosmologique moins la densité de la matière, et donc à mesure, au moment où la matière est suffisamment diluée, la tension étant constante, on aura un terme d'accélération qui est positif. Tous ces ingrédients mis ensemble nous donnent le modèle standard de la cosmologie. Ce modèle standard de la cosmologie, dans notre jargon, on l'appelle lambda-CDM. Alors je vais vous expliquer pourquoi ce terme. Lambda, c'est la notation standard dans nos équations de la constante cosmologique. CDM, donc ça veut dire cold dark matter, la matière noire froide, et c'est un modèle lambda CDM plat, donc qui nous rappelle que la courbure est mesurée comme étant zéro. C'est le modèle le plus simple qui explique toutes les observations cosmologiques à ce jour, et c'est le modèle standard donc de la cosmologie. Voilà à quoi il ressemble donc en termes dynamiques. Vous avez une jauge d'expansion et une jauge de matière ici, avec expansion moins matière positif. Vous avez une constante cosmologique qui compense exactement ce terme d'expansion moins matière de manière à ce que la courbure soit nulle. Le facteur d'échelle en fonction du temps cosmique, voilà donc à quoi ça ressemble. Vous avez une première aire qui est dominée par la matière durant laquelle l'expansion est décélérée. Et puis une équivalence entre la matière et la constante cosmologique à un moment, où on entre dans une aire qui est dominée par la constante cosmologique, avec une expansion accélérée. Si on représente les proportions de ces deux composants ici avec un diagramme, donc on a un camembert qui évolue en fonction du temps, qui part avec beaucoup de matière, très peu de contribution de la constante cosmologique, une équivalence à un moment, et puis enfin, quand le temps passe, un univers qui finit par être dominé par la constante cosmologique. Alors si on regarde tout ceci un petit peu plus précisément avec aujourd'hui, on est environ à 30% de matière et 70% de constante cosmologique dans notre budget énergétique de l'univers. Et ces 30% de matière se séparent en 25% de matière noire froide et simplement 5% pour nous, la matière ordinaire, sachant que la matière noire froide, ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais c'est également un composant assez énigmatique de l'univers. L'ensemble de ces découvertes ont valu, j'ai parlé de tous les prix Nobel pour la cosmologie observationnelle, dans l'ensemble de tout ceci, et mettre tout ceci dans un cadre théorique cohérent, a valu le prix Nobel de 2019 à Jim Peebles, qui vient couronner l'ensemble de ce modèle standard de la cosmologie. Alors que se passerait-il maintenant si l'énergie noire n'était pas la constante cosmologique ? On aime bien inventer des modèles où les choses pourraient être un petit peu plus compliquées que ça. Alors, au-delà de la constante cosmologique, est-ce qu'on peut classifier les modèles possibles d'énergie noire ? Donc, je vous rappelle que la deuxième équation de Friedmann-Lemaître nous dit accélération égale moins densité plus 3 fois la pression. Et donc pour expliquer une accélération positive, il faut que W, c'est-à-dire le rapport entre pression et densité, soit aujourd'hui plus petit que moins un tiers. La constante cosmologique satisfait cette équation puisque la constante cosmologique, ça correspond à W égale moins 1. Mais W n'est pas nécessairement constant dans le temps. Et habituellement, on paramétrise l'énergie noire dynamique par cette équation ici, W de t, en fonction du temps, vaut W0 plus WA, facteur de 1 moins A. Alors A, c'est le facteur d'échelle de la maille du réseau que je vous ai introduit au départ. Et donc, on a deux paramètres libres pour caractériser l'énergie noire, W0, WA, c'est-à-dire le terme constant aujourd'hui, et puis globalement, un petit peu sa dérivée par rapport au temps. Et donc, ça veut dire que le bestiaire de l'énergie noire va se représenter dans un plan. W0 en abscisse, WA en ordonnée. Alors, je vous disais que pour expliquer une accélération, il faut déjà qu'on soit moins que moins un tiers. Donc, toute cette partie du plan ici où on a décélération est exclue et on a uniquement l'accélération ici, donc la partie du plan qui nous intéresse. Donc, la constante cosmologique, c'est ce point-là précisément ici, W égale, W0 égale moins 1, WA égale 0. Mais on a d'autres parties du plan possibles, en particulier tout ce qui se passe tout ce qui est au-dessus, on aura une énergie noire qui accélère moins dans le passé que la constante cosmologique. Tout ce qui est en dessous, on a une énergie noire qui accélère plus dans le passé que la constante cosmologique. Et ces modèles d'énergie noire dynamique, on leur donne le nom en particulier de quintessence. Quintessence, c'est par analogie avec la métaphysique d'Aristote, qui pensait avoir décrire l'ensemble de l'univers connu avec quatre éléments, plus un cinquième, donc pour toute la physique qui était inconnue. Donc la quintessence, pour décrire cette physique exotique, on a pensé que c'était un terme adapté. Et comme les éléments qui ont des transitions de phase en physique, on pense que la quintessence pourrait elle-même avoir des transitions de phase, donc par exemple de l'eau qui gèle, ou de la glace qui fond. Et par analogie, on donne le terme ici à tout ce qui se passe au-dessus du plan, le nom de quintessence gelante. Donc c'est comme de la glace qui fond pour de la quintessence. Tout ce qui se passe en dessous ici, c'est de la quintessence fondante. Et puis, il y a encore quelque chose de possible, qui est tout ce qui est inférieur à moins 1 ici, qui s'appelle l'énergie noire fantôme. Alors maintenant, à quoi ça ressemble en termes dynamiques ? Donc, je vous montre à nouveau encore mes réseaux qui évoluent. Le premier modèle ici, à gauche, c'est le modèle de la constante cosmologique, le modèle standard de la cosmologie. Et puis, ce qui se passe maintenant pour l'énergie noire fantôme, la quintessence gelante, la quintessence fondante. Donc, vous pouvez regarder ici la densité d'énergie noire en fonction du temps cosmique. Pour la constante cosmologique, cette densité est constante, bien sûr. Pour la quintessence gelante, vous avez quelque chose qui part de haut, qui tombe à la valeur qu'on observe aujourd'hui et puis qui remonte. Pour la quintessence fondante, c'est l'inverse, ça part de bas, ça monte aujourd'hui et puis ça retombe. Et puis il y a l'énergie noire fantôme pour lequel la densité d'énergie noire va augmenter tout le temps en fonction du temps, part de très faible mais va également très haut. Et donc les destins de l'univers, vous voyez que ça ne change pas grand-chose, à vrai dire, sur le passé de l'univers, et donc c'est pour ça que ça va être très difficile de mesurer les effets relatifs de ces modèles. Par contre, ils ont un effet assez catastrophique sur le futur de l'univers. Si la densité d'énergie noire retombe à zéro, eh bien on va avoir un univers qui va finir par se recontracter, mais dans un temps extrêmement long. C'est à nouveau un big crunch. Le big freeze, c'était le scénario du modèle standard de la cosmologie, mort thermique de l'univers. Mais si vous avez une densité d'énergie noire qui tend vers l'infini ici, à mesure que le temps va vers l'infini aussi, c'est-à-dire une densité d'énergie noire qui continue à augmenter avec le temps, pour le cas de l'énergie noire fantôme ou de la quintessence gelante, eh bien là, c'est la physique vraiment exotique, parce que c'est ce qui s'appelle le Big Rip, déchirement total de l'univers. Non seulement la voie lactée va se retrouver toute seule, mais dans ce scénario-là, on aura également un scénario où l'expansion accélérée va continuer, y compris à l'échelle du système solaire, des molécules, des atomes, et donc toutes les particules élémentaires de l'univers vont se retrouver toutes seules et ne pourront plus interagir avec les autres. Alors c'est de la physique très exotique, parce que pour avoir de l'énergie noire fantôme ou de la quintessence gelante, il faut W plus petit que moins 1, et donc pour ça, il faut violer à peu près toutes les conditions qui font la physique standard, hein, en particulier les vitesses plus petites que la vitesse de la lumière, les voyages dans le temps, etc. Donc peut-être que pour... aucun de mes scénarios n'était très réjouissant, hein, pour le futur. Peut-être que le Big Rip, c'est le pire, mais l'espoir, c'est qu'on peut quand même voyager dans le temps, dans ce scénario, donc peut-être qu'il suffit de remonter le temps pour y échapper. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Pour essayer de discriminer donc ces modèles cosmologiques, alors juste quelques mots très rapidement sur le satellite Euclide, parce que je pense que c'est un des projets majeurs de l'IAP, donc je pense que le sujet a déjà été en partie couvert dans les conférences publiques et de toute façon le sera dans le futur. Le 1er juillet 2023, nous étions tous assis dans cet amphithéâtre à regarder cet écran pour le lancement du satellite. Donc voilà Euclide qui part ici sur une fusée Falcon 9 de SpaceX. Et Euclide envoie ses données, et donc Euclide est, a commencé son relevé et envoie ses données qui finissent par arriver ici au centre de contrôle de l'ESA et nous produit des images vraiment exceptionnelles. Alors, Euclide, le champ de vue des instruments d'Euclide, c'est 2,5 fois la surface de la Lune, ça fait un relevé qui est vraiment très large. Et en quelques jours, pour faire une analogie et pour vous donner une idée, en quelques jours, Euclide obtient des images qui correspondent à toutes les images du Hubble Space Telescope cumulées depuis 30 ans. Chacune des images qu'on reçoit font plusieurs gigaoctets. Et donc le volume de données est vraiment sans précédent. Donc la transmission, on reçoit des données à 75 mégaoctets par seconde depuis le deuxième point de Lagrange du système Terre-Soleil, donc ça fait 1,5 million de kilomètres. Pour ça, il a fallu utiliser d'ailleurs une nouvelle bande de fréquence et de mettre à jour les antennes qui reçoivent ces données au sol. C'est 100 gigaoctets qui sont envoyés par jour pendant les 6 ans de la mission, c'est-à-dire près de 2 fois le volume qui est transmis par le James Webb Space Telescope ou Gaia, qui sont également en orbite autour du deuxième point de Lagrange, L2. Et donc un total d'environ 30 pétaoctets d'images brutes. Alors péta, c'est le suffixe au-dessus de tera, qui est lui-même au-dessus de giga. 30 pétaoctets d'images brutes, de 150 pétaoctets, on attend pour l'exploitation scientifique. Et donc, la question, ça va être pour nous, comment analyser ces données et faire le lien avec la physique de l'énergie noire. C'est le défi. Alors, quelques mots sur la croissance des données, des modèles, des méthodes et des ordinateurs, avant de parler d'intelligence artificielle. Nous vivons, qu'on l'aime ou pas, nous vivons dans un âge où tout croît vite. Mais qu'est-ce qui croît le plus vite? Je pense que c'est intéressant de se poser cette question. Qu'est-ce qui croît le plus vite entre les données, les modèles, les méthodes, les ordinateurs? C'est intéressant de se poser cette question parce que si les données croissent plus vite que les modèles, on va avoir des problèmes, nous théoriciens, pour analyser ces données. Si les ordinateurs évoluent moins vite que les méthodes, on va également avoir un problème parce qu'on ne saura pas faire tourner sur nos ordinateurs toutes les idées qu'on peut avoir pour l'analyse de données. Alors voilà une image d'Euclide, donc commençons par parler de la croissance des données. Voilà une image d'Euclide, c'est ici la vue d'Euclide de l'amas de Persée, qui a été présentée par l'ESA en 2023. Donc une image à très haute résolution, vous voyez les galaxies et les étoiles extrêmement finement résolues par les instruments d'Euclide. Alors, je vous montre maintenant donc, le nombre de galaxies qui est observé depuis le début, donc depuis 1910, Slipher, et qu'on fait des relevés de galaxies. Comment est-ce que ce nombre de galaxies évolue? Donc, il y a deux façons de faire des relevés de galaxies, soit prendre des photos, globalement, c'est ce qui s'appelle les redshifts photométriques, ce sont les points en jaune, ou prendre le spectre de ces galaxies, c'est plus compliqué, mais c'est plus riche en informations, c'est ce qui s'appelle les relevés spectroscopiques et qui me donne les points en rouge. Donc, dans tous les graphes qui suivent, j'ai mis en ordonnée le nombre de galaxies ou d'objets en fonction du temps. Et donc, c'est une échelle logarithmique en ordonnée, ce qui veut dire que quand vous pouvez tracer une droite à l'œil, c'est quelque chose qui croît en fait exponentiellement. Ça suit une belle loi exponentielle, tout ça, depuis 1910, avec les points de données d'Euclide, ici, que je vous ai mis, et qui pourrait prédire que si on suit à peu près la même évolution, en fait, on devrait avoir les observations pour toutes les galaxies qu'il y a dans l'univers observable d'ici à peu près 2050 à 2070. Par ailleurs, donc pour analyser tout ça, on fait tourner, en particulier ici, des simulations cosmologiques. Alors ici, c'est une vue de l'ensemble de l'univers observable réalisé par le consortium Euclide. C'est une simulation qui s'appelle Euclid Flagship. Et donc, ces simulations numériques, c'est de résoudre le problème gravitationnel entre un système de N corps. Donc vous avez N corps qui interagissent, et donc chacun exerce une influence gravitationnelle sur les N-1 autres. C'est donc un problème où il y a à peu près N carré interactions. Donc la façon la plus simple de faire, c'est de calculer explicitement ces N carré interactions et de résoudre le problème. Alors c'est ce qui s'appelle les simulations par sommation directe. Et je vous montre ici l'évolution du nombre de particules dans ces simulations à nombre à sommation directe en fonction du temps. Alors ça évolue même exponentiellement aussi, mais quand même pas très vite, 18% par an environ. En particulier, ça évolue beaucoup moins vite que les ordinateurs, et ça c'est vraiment dû au fait que le problème est compliqué, c'est un problème en n carré si vous avez n particules. Heureusement, ou malheureusement, selon mon point de vue pour le bilan carbone, heureusement, donc, on a pensé à des algorithmes qui permettent de simplifier le calcul des forces, et plutôt que de faire le calcul en n carré, de faire des choses par exemple sur un réseau ou des réseaux adaptatifs, qui permettent de calculer les forces de manière beaucoup plus simple, ce qui a permis d'avoir une évolution beaucoup plus rapide de ces simulations en fonction du temps. Donc c'est les points que je vous montre ici en triangle orange, ces algorithmes un petit peu plus avancés ont permis en particulier de suivre ce qui s'appelle la loi de Moore pour les ordinateurs. La loi de Moore nous dit que les choses doublent environ tous les 18 mois, c'est-à-dire que ça fait environ 59% par an. Et puis en fait, on peut remarquer que depuis 1990, on est même finalement au-dessus de cette courbe de la loi de Moore, hein, c'est-à-dire qu'on a une croissance, on pourrait dire, super exponentielle, et on fait maintenant tourner des simulations qu'on appelle vraiment large scale, où le nombre de particules est vraiment, vraiment extrême, c'est les points que je vous ai mis en bleu ici. Alors maintenant, quelle est la croissance comparée de ces données et de ces modèles ? Donc nous utilisons déjà plus de particules dans les simulations qu'il y a de galaxies dans l'univers observable. C'est ce que je vous montre ici. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Bon, ben, c'est malheureusement pour produire une galaxie, on a en général besoin de plus d'une particule, et donc il y a toujours un cas à augmenter ce nombre de particules dans les simulations. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la croissance des méthodes ? Donc en particulier la croissance des méthodes d'intelligence artificielle, dont on va parler dans la suite. Les méthodes d'intelligence artificielle sont caractérisées par leur nombre de paramètres, en particulier pour ce qui est des réseaux de neurones, dont je vais parler dans la suite. Le nombre de paramètres, c'est globalement le nombre de synapses, hein, ici, le nombre de traits qui apparaît dans ce diagramme. C'est le nombre de paramètres qui sont entraînés quand on fait l'entraînement de ce modèle. En regardant l'évolution de ces méthodes d'intelligence artificielle, il y a deux phases, très clairement, une rupture de pente très claire en 2012, avec une ère qui était pré-apprentissage profond avant 2012, où les choses augmentaient un petit peu comme les méthodes de sommation directe, 19%, 18-19% par an. Et une rupture de pente très claire, je vous disais, avec l'avènement de ces méthodes d'apprentissage profond, le deep learning en anglais, qui fait qu'on a maintenant plus que double chaque année, hein, plus de 100% de croissance par an avec ces points verts. Et certains chercheurs en intelligence artificielle disent même que depuis 2016, on est rentré dans une troisième phase des modèles d'intelligence artificielle, où certaines grandes entreprises américaines, dont vous connaissez les noms, font tourner vers des modèles dont le nombre de paramètres est vraiment extrême. C'est ces modèles en rose ici, qui sont les modèles d'apprentissage automatique large scale. Donc si je représente tout ça sur le même graphe que les particules dans les simulations, eh bien vous voyez que ces méthodes d'intelligence artificielle ont maintenant rattrapé les simulations cosmologiques avec l'avènement de l'apprentissage profond en particulier. Et puis enfin, dernier mot sur la croissance des choses, hein, la croissance des ordinateurs. La loi de Moore dont je vous parlais nous disait que les choses ont tendance à doubler tous les 18 ans. Alors c'était vrai jusqu'à une époque... pour les architectures matérielles traditionnelles des ordinateurs, hein, les processeurs à un cœur des ordinateurs, leur puissance avait tendance à doubler tous les 18 mois. C'était la loi de Moore, 53% par an environ jusqu'en 2005. Et malheureusement, ça n'est plus vrai, hein, parce que ces processeurs à un cœur ont vraiment maintenant atteint leur limite physique, c'est-à-dire que les performances ont tendance à plafonner. Alors heureusement ou malheureusement, maintenant les développements en architecture des processeurs ont tendance à non pas augmenter la fréquence des processeurs individuels, mais plutôt à placer plusieurs cœurs dans un seul processeur. Et on sait faire des processeurs maintenant qui ont jusqu'à 128 cœurs ici, ce qui permet d'avoir une tendance en performance qui continue à augmenter. Par ailleurs, d'autres développements récents en architecture matérielle des ordinateurs se basent non plus seulement sur des processeurs, mais sur ce qu'on appelle des accélérateurs matériels. Alors les accélérateurs matériels, on a en particulier les cartes graphiques. Ça s'appelle les cartes graphiques parce que le vocabulaire était emprunté, la technologie appartenait aux gens qui faisaient des jeux vidéo au départ. Maintenant, ces cartes graphiques, donc ces GPU, Graphical Processing Unit, servent en particulier aussi au calcul scientifique. Et sont vraiment cruciales pour les modèles d'intelligence artificielle. Donc ce sont des accélérateurs matériels. On a également aussi parfois des architectures qui sont directement reconfigurables, c'est ce qui s'appelle des FPGA, ou des architectures dédiées pour faire certains types de calculs, qui s'appellent des ASICs. Et donc ces accélérateurs matériels ici permettent d'accélérer énormément les performances. Ici, vous voyez la performance de ces cartes graphiques ici en fonction du temps, qui a également tendance à augmenter exponentiellement. Donc je vous ai montré ici une carte graphique du modèle les modèles les plus récents. On est en train d'en commander 3 ici à l'IAP. Ça vaut le prix d'une, c'est grand comme ça, hein, mais ça vaut le prix d'une belle voiture, hein, une carte graphique de ce genre. 3 pour l'IAP. J'ai vu que le supercalculateur Jean Z du CNRS va en commander autour de 15 000, si j'ai bien lu. Et puis encore une grande entreprise américaine vient de lancer une commande de 350 000 de ces cartes graphiques. Voilà, identique, pour vous donner une idée. Et donc ces architectures des supercalculateurs maintenant sont des architectures hybrides avec non seulement des processeurs mais des accélérateurs matériels. Et ça a été toujours la course à avoir de plus en plus de performances. Ici, on vient d'entrer dans ce qui s'appelle l'ère des supercalculateurs hexaflopiques. Alors ça veut dire un hexaflop de calcul. Un hexaflop, donc c'est un... donc hexa, c'est le suffixe qui est au-dessus de péta, dont je vous parlais tout à l'heure, 10 puissance 18, et des flops, donc ce sont des opérations flottantes par seconde. Le supercalculateur, ici le plus puissant aux États-Unis, prétend faire plus de 10 puissance 18 opérations en virgule flottante par seconde. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? L'intelligence artificielle au service de l'analyse des données cosmologiques. On veut mesurer l'équation d'état de l'énergie noire, dont je vous parlais tout à l'heure, mais donc ça nous pose des questions un petit peu plus fondamentales, finalement, aux sources de l'intelligence artificielle. Je peux mesurer l'équation d'état de l'énergie noire, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire en physique mesurer une grandeur ? Qu'est-ce que ça veut dire également vérifier une théorie ? Et plus généralement, comment est-ce que la connaissance progresse ? Donc là, je fais un petit retour historique pour vous parler de la formule de Bayes. La formule de Bayes porte le nom du révérend anglais Thomas Bayes, qui vivait jusqu'en 1761. Elle a été publiée en 1763 par son ami Richard Price, qui est également associé, oublié, mais qui a été également associé à la Révolution américaine. Et donc cette formule de Bayes, c'est une identité mathématique sur la façon dont nous analysons des observations et dont nous changeons d'avis alors que nous obtenons de nouvelles observations. Alors notez que pour faire un raisonnement probabiliste, la personne qu'on monte habituellement avec la formule de Bayes ici n'est probablement pas la bonne personne, dans le sens où cette personne s'appelle probablement Thomas Bayes et probablement un révérend, mais qui a probablement plutôt vécu au XIXe siècle. L'argument qui est donné ici par les historiens des sciences est qu'une personne du XVIIIe siècle aurait probablement porté une perruque pour un portrait officiel. Donc malheureusement, nous n'avons pas de représentation du révérend Thomas Bayes associé à la formule dont je veux parler ici. Alors, Florence l'a dit en introduction, j'ai vécu pendant quelques années à Londres, et comme bon bayésien, j'ai fait mon pèlerinage sur la tombe de Bayes, qui se trouve dans la City de Londres. C'est un petit cimetière qui s'appelle Bunyan's Field, où vous trouvez en particulier, il y a aussi Daniel Defoe, et donc il y a Thomas Bayes et Richard Price. C'est un petit peu difficile de lire les inscriptions, mais vous pouvez vous convaincre que c'est bien la tombe de Bayes ici dont il s'agit. Et puis pour rendre justice également à un scientifique français, Pierre-Simon de Laplace, quelques années après Bayes, a redécouvert cette formule indépendamment et a été le premier à en faire vraiment un usage scientifique important, à des questions d'astronomie, mais également à des questions de démographie aussi. À l'époque, il se demandait pourquoi est-ce que dans certaines populations, il y a plus ou moins de petites filles que de petits garçons qui naissent. Et donc, si on employait les conventions de nomenclature moderne, on devrait probablement appeler cette formule la formule de Bayes-Price-Laplace. Elle s'appelle, pour des raisons historiques, uniquement la formule de Bayes. Alors maintenant, vous direz, pourquoi l'utiliser ? Bon, alors c'est vieux ce dont je vous parle, hein, c'est du XVIIIe siècle. Alors je ne vous ai pas écrit la formule ni sa démonstration, mais c'est quelque chose qui est vraiment très simple, hein. C'est quasiment une trivialité mathématique. Donc pourquoi l'utiliser ? Parce que la formule de Bayes est triviale dans un premier temps, puis par ailleurs parce qu'elle est dépassée, XVIIIe siècle. Et puis peut-être conceptuellement plus important, cette formule de Bayes mesure vraiment la croyance. Elle nous dit que nous pouvons apprendre, même à partir de données manquantes, même à partir de données incomplètes, même à partir d'approximations, ou même d'ignorance quasiment totale. Et donc elle va à l'encontre de la conviction que la science exige de l'objectivité et de la précision, qui était en particulier la conviction des scientifiques qui ont suivi Laplace au XIXe siècle. Donc après la mort de Laplace, cette formule a été déclarée morte et enterrée par les scientifiques sérieux qui ne voulaient plus en entendre parler et qui voulaient faire de la science avec de l'objectivité et de la rigueur. C'est en particulier l'école de statistique qui s'est appelée l'école fréquentiste. Et pourtant, de manière un petit peu souterraine, la formule de Bayes a contribué à résoudre beaucoup de problèmes pratiques. Par exemple, prouver l'innocence du capitaine Alfred Dreyfus pendant l'affaire en France, le nom de C'est sûr, c'est des arguments probabilistes. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler, mais vous pouvez me poser des questions. Le nom d'Henri Poincaré est associé à ça. Sauver le système téléphonique Bell de la panique financière, prédire les tremblements de terre, le nom d'Harold Jeffries, qui était le seul défenseur de la formule de Bayes dans les années 30-40. Casser le code Enigma de la marine allemande, le nom d'Alan Turing est associé à cet épisode, et puis il a été popularisé par un film que vous avez peut-être vu, The Imitation Game. Prouver que la cigarette cause le cancer du poumon, à l'époque où ce n'était pas du tout une évidence, hein, 1950. Et puis rechercher une bombe H, puis un sous-marin perdu en mer par l'armée américaine. C'est ce qui s'appelle la théorie bayésienne de la recherche. Et donc tous ces épisodes, si ça vous intéresse, ils sont décrits dans un livre qui s'appelle « The Theory That Would Not Die ». Donc la formule de Bayes est « cette théorie qui ne voulait pas mourir », même si les scientifiques sérieux avaient décidé qu'elle était morte. Et donc cette bataille scientifique a duré pendant 150 ans, jusqu'à l'arrivée des ordinateurs. Et une personne qui a peut-être conclu le débat, c'est James, Edwin Thomson James, était professeur de physique et de statistique à l'Université du Mississippi. Il a écrit un livre que je trouve très, très important et très intéressant dans l'histoire des sciences, Probability Theory, The Logic of Science, la théorie des probabilités, la logique de la science. Et dans son introduction, vous lisez en particulier ceci, « La supériorité des méthodes bayésiennes est aujourd'hui un fait largement démontré dans une centaine de domaines différents. » On peut argumenter avec une philosophie, il n'est pas si facile d'argumenter avec une sortie d'ordinateur qui nous dit, indépendamment de toute votre philosophie, voici les faits de performance réelle. Et donc pour conclure ce débat, eh bien c'est même un théorème mathématique maintenant, le théorème de Cox-James, aussi associé au nom de Cox, 1946. Le théorème de Cox-James nous dit que n'importe quel système pour manipuler des plausibilités numériques qui est en accord avec des desiderata raisonnables, va être isomorphe à la théorie bayésienne des probabilités. Si vous n'avez rien compris à ce que je veux dire, en langage courant, ça veut dire que la théorie bayésienne des probabilités, c'est la seule façon raisonnable de faire les choses, c'est-à-dire que c'est la seule logique de la science possible. Et donc, Bayes au travail en cosmologie, qu'est-ce qu'on fait ici à l'IAP avec Bayes? Je vous montre ici une chose sur laquelle j'ai travaillé en particulier beaucoup pendant ma thèse, c'est un code qui s'appelle Borg, Bayesian Origin Reconstruction from Galaxies, la reconstruction bayésienne des origines par les galaxies. Vous avez des observations ici qui sont les observations des galaxies ici à droite. Et puis ce que fait ce code, c'est d'explorer tous les univers possibles qui sont compatibles avec ces observations ici. Vous avez une carte des conditions initiales qui ressemble à la carte du fond diffus cosmologique que je vous montrais tout à l'heure. Ici la carte des conditions finales qui ressemble plutôt aux simulations à N-core que je vous montrais tout à l'heure. Les deux sont reliés ici par un modèle de gravité. Et donc, vous avez quelque chose qui explore tous les univers possibles, avec des reconstructions qui sont stables ici, aux endroits où on a des observations de galaxies. Et puis, un code qui explore tous les univers possibles ici, en particulier à grande distance, ou là où on n'a pas d'observation due au plan de la galaxie. Alors, c'est un problème qui n'est pas évident hein, du point de vue numérique. Je vous ai mis quelques chiffres ici. C'est des dizaines de milliers de galaxies, c'est une carte en 3D, donc c'est 17 millions d'éléments de volume qu'on reconstruit simultanément, plusieurs téraoctets de données. C'est 10 000 réalisations d'univers possibles pour reconstruire ceci, ce qui vaut à peu près 500 000 simulations. Et en termes de coûts informatiques, hein, 1,5 million d'heures CPU, on parle en heures CPU, c'est environ 2 mois sur le supercalculateur qu'on a ici à peu près sous mes pieds. Alors, quelques autres exemples d'intelligence artificielle en 2024 pour essayer d'aller un petit peu plus loin que ce modèle de reconstruction bayésienne. Donc, vous avez probablement entendu parler de ces chatbots, ces grands modèles de langage qui vous répondent quand vous tapez n'importe quoi, en particulier ChatGPT. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été aussi entraînés pour écrire du code. Et donc, maintenant, ça nous sert beaucoup pour préparer non seulement des réponses à nos questions, mais du code informatique. Et puis, par exemple, les réseaux que je vous ai montrés tout à l'heure et l'animation de ces réseaux ici, ça a été largement écrit par intelligence artificielle. Pour ceux qui voient à quoi je fais référence et que ça intéresse, je vous ai mis ici le code sur mon GitHub. Et puis, autre chose qu'on peut faire, génération d'images à partir de descriptions textuelles, c'est des intelligences artificielles comme DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney. Alors le problème typique pour les tester, bien sûr, c'est de leur demander de générer des images de chats, ce que j'ai fait en 2022 avec DALL-E. Et puis, en préparant cette conférence ici en 2024, donc bon, je vous laisse vous faire votre avis sur l'aspect esthétique, mais on peut quand même remarquer une certaine évolution technologique, même à l'échelle de ces 2 ans. Alors, pourquoi de l'intelligence artificielle en cosmologie ? au-delà de ces modèles pour de ces modèles jouets, en quelque sorte. Alors la première chose à vous dire, c'est que la question n'est pas vraiment tranchée. Ici encore, en novembre 2023, on a organisé une conférence sur ce sujet, sur laquelle on en a débattu, et certains des chercheurs du domaine ne sont toujours pas convaincus qu'on a besoin d'intelligence artificielle en cosmologie, et qu'on ferait mieux en fait, de faire avec des méthodes traditionnelles. Alors, ce n'est pas exactement mon point de vue, vous vous en doutez. Donc, je vais tenter quand même de vous donner plusieurs arguments qui ont été développés pendant cette conférence. Premier argument, pourquoi de l'intelligence artificielle en cosmologie ? Pour imaginer d'autres univers, pour accélérer, pour aller au-delà des approximations. Et donc, un exemple que je vous montre ici, c'est l'émergence de la complexité dans la formation des structures cosmiques. Donc, pour des raisons de temps de calcul, on est très souvent amené à adopter des approximations analytiques aux modèles physiques complets qu'on aimerait bien utiliser. Donc voilà à quoi ressemble une approximation analytique de la formation des structures dans l'univers. Voilà ce à quoi on aimerait qu'elle ressemble dans un univers numérique simulé. Et donc, on utilise de l'intelligence artificielle entraînée sur ces choses-là pour reproduire un grand nombre de ces réalisations. Et c'est ce qui s'appelle, c'est tout un domaine qui s'appelle la construction des émulateurs. Donc je vous ai mis quelques références ici. Et puis deuxième chose, eh bien, pour laquelle on peut utiliser de l'intelligence artificielle, c'est rechercher et résumer de l'information pertinente pour tester les modèles cosmologiques. Par analogie avec l'identification de chars dans des images, vous avez ici certains patchs dans votre image qui sont pertinents pour identifier un chat, ses oreilles, ses yeux, sa fourrure. Et puis des régions qui sont non pertinentes ici, qui vont contribuer pour du bruit dans la détection de cette image. Et donc on fait un petit peu la même chose en cosmologie, et je vous montre ici quelque chose que j'ai publié en 2016, qui est une carte de l'univers local, et cette carte montre les régions qui contiennent de l'information sur l'énergie noire. Donc globalement, plus c'est rose, plus c'est intéressant pour obtenir de l'information sur l'énergie noire. Voilà à nouveau quelques exemples de références ici. Alors comment est-ce qu'on fait ça exactement en pratique, dans les quelques minutes qui me restent ? Donc je voudrais vous montrer ici une petite animation pour laquelle j'essaie de vous démontrer comment on fait ça en pratique avec des réseaux de neurones. Donc il s'agit d'un problème de classification ici. Vous avez des points bleus et des points jaunes, et ce que doit faire le réseau de neurones, c'est de trouver la frontière entre ces points. Donc j'ai ici les données en entrée, et puis plusieurs couches de réseau de neurones, et ici un problème relativement simple où j'ai deux paquets de points qu'il suffit de séparer. Donc avec un modèle ici avec très peu de neurones, et peu d'entrées et peu de neurones, je fais tourner cet apprentissage et il va bien réussir à me tracer la frontière entre ces deux domaines. Maintenant, on va essayer de compliquer un petit peu les choses dans ce qui suit. Voilà maintenant ma distribution de points. Il s'agit toujours de séparer les bleus des jaunes. Et donc, problème plus complexe veut dire que j'aurais besoin d'un modèle plus complexe. Donc, ce que j'ai fait, c'est d'ajouter des couches à mon réseau de neurones et puis d'augmenter le nombre de neurones par couche. Et donc, vous voyez que le nombre de synapses, qui sont le nombre de paramètres de mon modèle, a beaucoup augmenté ici, ce qui donne plus de flexibilité au modèle pour faire tourner cet apprentissage. Et à nouveau, l'apprentissage va bien s'en sortir et arriver à tracer la frontière ici entre les points jaunes et les points bleus. Continuons maintenant avec un cas vraiment difficile ou pathologique. Il s'agit toujours de séparer les points jaunes et les points bleus. Et donc là, je vais avoir une distribution qui n'est vraiment difficile. Donc je vais avoir besoin non seulement de plus de neurones, mais de plus d'informations en entrée ici. Donc sur la première couche qui correspond aux entrées, j'augmente le nombre d'entrées. Et puis je vais utiliser un modèle qui a plus de couches, à nouveau. Donc voilà, 6 couches cachées de neurones dans ce modèle. Et puis davantage de neurones dans les premières couches. Vous voyez que le nombre de synapses, le nombre de paramètres de mon modèle augmente beaucoup. Et je vous fais tourner l'apprentissage pour voir si ce modèle arrive à s'en sortir. Alors au départ, c'est comme dans la formule de Bayes, il parle d'un état complètement agnostique, c'est-à-dire que c'est ni bleu ni jaune, il ne trace pas la frontière. Première chose que le modèle va réussir à faire, c'est de repérer que les jaunes sont quand même plutôt de ce côté-là que de ce côté-là du plan. Et puis l'apprentissage continue. Alors vous voyez ici un phénomène assez typique qui sont ces petites instabilités numériques, qui proviennent du fait que c'est quelque chose qui est un problème difficile et donc quelque chose qui est difficile à représenter sur un ordinateur. Et voilà, le réseau finit par s'en sortir et par nous tracer une frontière raisonnable entre ces points. Alors donc, ces réseaux de neurones, dernière slide, arrivent à se créer un langage qui permet de décrire cette distribution de points bleus et jaunes. Et donc, une question qu'on peut se poser, c'est en fait, comment est-ce qu'un réseau de neurones voit vraiment le monde ? Est-ce que ça marche vraiment comme notre cerveau ? Alors pour vous donner un exemple ici de choses qu'on essaie de faire avec ces réseaux de neurones entraînés pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent, c'est ce qui s'appelle des attaques de ces réseaux de neurones. Donc j'ai ici un réseau de neurones qui a été entraîné à reconnaître des animaux. Il a été entraîné à reconnaître pas mal de photos d'ours au départ, et donc je lui montre une photo d'ours qu'il n'a pas vue, la voici, et donc il va bien reconnaître et me donner un label en sortie, me dire que c'est un ours. Peut-être plus surprenant, je lui montre cette photo. Cette photo, c'est une photo d'un ours dans laquelle on a fait comme dans un puzzle, on a mélangé les morceaux, comme vous voyez ici. Donc c'est assez difficile pour le cerveau humain, si je ne vous l'avais pas dit, de voir que c'est une photo d'un ours. Ça ne pose absolument aucun problème au réseau de neurones qui va bien reconnaître ici, sans aucune difficulté, une image d'un ours. Maintenant, peut-être plus surprenant à nouveau, mais plus inquiétant, je lui montre ceci, c'est-à-dire l'image d'un ours, uniquement les contours que j'ai tracés à la main. Et alors là, le réseau de neurones va être complètement perdu et donner une réponse qui n'a rien à voir avec ce à quoi je m'attends, et donc quelque chose qui n'aura pas de sens. Donc c'est ce qui s'appelle des attaques par exemple contradictoire, adversarial attacks en anglais, qui permettent de tester la robustesse du modèle appris. Donc ce type de réseau de neurones en particulier, ce type de réseau de neurones convolutif, semble raisonner plutôt sur la texture que sur la forme générale. C'est ce qu'on peut interpréter de cet exemple ici. Et donc, si on prend un petit pas de recul, ce qu'on a, c'est que ces réseaux de neurones se créent un langage interne. Ce langage interne est très puissant, il permet de manipuler, d'analyser, de générer des données et des objets complexes qu'on peut utiliser de manière très efficace pour certaines tâches. Mais ce langage interne reste très mystérieux. En particulier, il n'y a pas de théorie disponible. Et donc, je pense que le prochain défi dans le domaine de l'intelligence artificielle va essayer de décrypter ce langage interne qu'ont les réseaux de neurones pour voir le monde. Et donc, pour conclure sur l'énergie noire et l'intelligence artificielle, eh bien, la nature de l'énergie noire est, de mon point de vue, une des questions les plus fascinantes de la cosmologie contemporaine, avec plusieurs scénarios possibles ici, et on va essayer de trouver quel est le scénario qui décrit le mieux les observations dans les prochaines années. Le satellite Euclide va réaliser le premier relevé depuis l'espace qui sera dédié à l'étude de ce mystère, ce mystère de l'énergie noire. Et l'intelligence artificielle sera un élément clé pour analyser les données d'Euclide et toutes les données cosmologiques qui arrivent et faire la connexion avec la physique. Je vous remercie pour votre attention.
J'espère que vous aussi. J'ai pas tout compris, mais enfin presque. Donc voilà, j'espère que vous aussi. Donc je suis sûre qu'il y a plein de questions dans la salle. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de questions idiotes. Ah, alors, qui va oser ? J'ai pas beaucoup de questions sur le chat pour l'instant.
Est-ce que tu peux détailler, je me permets de te tutoyer hein, puisqu'on se connaît.
On se connaît.
Est-ce que tu peux détailler comment est entraîné le modèle qui permet de faire les frontières entre les points bleus et les points rouges?
Oui, si je m'en souviens. Il a une fonction de coût qui se base sur la distribution de probabilité de ces points bleus et de ces points jaunes. Donc c'est une fonction de coût classique de clustering, hein, on dit en intelligence artificielle, de séparation des points. C'est-à-dire, donc, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les points d'entraînement, et puis avec des points de données test, va essayer de tester si c'est bleu ou si c'est jaune, et associe un coût au fait qu'il ait la bonne réponse ou la mauvaise réponse.
Okay.
C'est comme l'ensemble des méthodes d'intelligence artificielle, souvent par essai-erreur.
D'autres questions?
Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette conférence. J'ai peut-être posé une question idiote, mais Euclide est fait pour observer les galaxies ou les étoiles en grand nombre, avec une grande précision. et après on va rentrer ça dans des modèles. Oui. Comment est pris à ce moment-là, comment vous prenez en compte les effets de l'antigravitationnel ?
Oui, alors donc Euclide a deux instruments, et en particulier donc ces deux instruments qui sont chacun largement dédiés à l'étude d'un des deux effets pour Euclide. Deux effets qui nous intéressent pour remonter à l'énergie noire. Le premier, c'est la distribution des galaxies, et le deuxième, c'est l'effet de l'antigravitationnel, comme vous le dites. Donc en particulier, l'instrument visible, c'est celui qui est chargé de mesurer très précisément la forme des galaxies. Et en supposant que les formes des galaxies ont que la distribution des galaxies ont des formes aléatoires, hein, donc des galaxies elliptiques qu'on regarde dans n'importe quel sens, en supposant que ces formes sont aléatoires, si on observe des formes qui sont par la suite corrélées, c'est là qu'on pourra savoir qu'il y a eu l'antigravitationnel sur le trajet. Donc en particulier si vous voyez des galaxies qui ont tendance à être dont les formes ont tendance à être alignées, c'est ça qui permettra de mesurer l'effet de l'anti-âge gravitationnel faible dans ce cas-là et de remonter à la distribution de masse et donc de fil en aiguille avec un modèle cosmologique aux propriétés de l'énergie noire.
Si je peux me permettre,
répondu à votre question,
une page de publicité. Oui. Vous pouvez regarder la conférence qui a eu lieu, je crois que c'était en mai dernier, par Nicolas Martinet de Marseille, qui a parlé exactement de l'antigravitationnel, voilà. Justement, et des projets pour Euclide, puisqu'à l'époque, Euclide n'était pas encore lancé. Donc vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube et avoir peut-être davantage de détails sur la réponse à votre question.
Absolument, oui. Nicolas a donné plus de détails.
D'autres questions ?
Bonjour. Qu'est-ce que vous espérez découvrir grâce à Euclide et l'intelligence artificielle en ce qui concerne l'énergie noire ? Quelles sont les grandes questions qui se posent ? Parce que pour la matière noire, bon, on sait qu'on recherche toujours sa nature, mais l'énergie sombre, quels sont les grands axes de questionnement ?
Et bien pour l'énergie sombre, pour l'énergie noire, on a deux... L'expérience Euclide est vraiment dédiée, le cœur de la science d'Euclide, c'est vraiment de mesurer l'énergie noire. En particulier, ce qu'on veut mesurer, c'est l'équation d'état. Je vous ai mis l'équation tout à l'heure. Le modèle cosmologique standard nous dit que cette équation d'état ne varie pas avec le temps et vaut toujours moins 1. C'est la constante cosmologique, W égale moins 1. On va essayer de mesurer, on sait que W vaut moins 1 avec une précision de 10%, plus ou moins, un petit peu moins que 10% pour, actuellement. On va essayer de faire une mesure qui va être beaucoup plus précise, sous le pourcent. Et puis par ailleurs, on va essayer de mesurer la dérivée par rapport au temps de cette équation d'état. Ce qui permettra de savoir si on est... donc la constante cosmologique nous dit que la densité d'énergie noire doit être constante. Si cette dérivée par rapport au temps ne vaut pas zéro, ça veut dire qu'on a forcément un modèle d'énergie noire dynamique et qu'on est dans des scénarios qui sont affichés ici, hein. Un scénario soit de quintessence gelante, soit de quintessence fondante, soit d'énergie noire fantôme. Et ça voudrait dire qu'on a besoin de nouveaux ingrédients en physique pour expliquer les observations.
Je vous redonne le micro dans une minute, mais il y a une question sur le chat qui est à peu près analogue, mais peut-être que tu pourras compléter ce que tu as dit. Donc il y a quelqu'un qui demande, peut-on réellement espérer réécrire les lois de la matière et pas seulement bricoler les lois actuelles ? Ne risque-t-on pas de juste modifier les paramètres à chaque nouvelle observation ?
Oui, il y a plusieurs aspects dans cette question. Il y a la question des lois, effectivement. Je vous ai parlé ici de l'énergie noire en supposant que l'énergie noire, bon, c'est justement pas une modification des lois, mais un composant matériel supplémentaire dans l'univers. Une autre possibilité, ce serait que les lois qu'on utilise pour décrire la gravitation sont fausses, et donc on aurait une théorie de la relativité générale qui ne serait incorrecte et qui donc devrait être modifiée. Donc ces deux exemples de soit rajouter des composants, soit modifier les lois ont des analogues, hein, dans l'histoire de l'astronomie. Maintenant, je crois qu'une partie de la question qui a été posée était aussi de savoir est-ce qu'on a une chance dans un espace de modèle théorique d'arriver à trouver son chemin avec les observations. Oui. Et donc là, je dirais que malheureusement, je n'ai aucune preuve que ça va toujours continuer à fonctionner. Mais l'histoire de l'astronomie et de la science jusqu'à présent nous montre qu'en faisant toujours des mesures plus précises, on a toujours réussi à raffiner notre compréhension
on
de l'univers.
Aimerait bien, quand même.
Et j'espère que ça va donc se poursuivre. Voilà.
Bonjour. Je vous pose cette question au moment où la série télévisée Les Trois Quarts sort, qui commence par le suicide massif des grands scientifiques. Parce que le principe s'effondre.
Je ne l'ai pas vu, malheureusement.
Ouais, enfin, voilà. Et la question, c'est, Sam Altman a dit qu'en 2027, c'est-à-dire dans quelques années, 3-4 ans, l'IA générale va se réaliser. Et si ça se trouve que l'IA générale se trouve une autre, enfin, on va dire, nie l'ensemble de tout ce qu'on a développé selon sa propre logique qu'on lui a donnée. Est-ce qu'il y aurait ce drame? Est-ce que ça pourrait aboutir à une négation de tout ce qu'on a développé jusqu'à maintenant dans les sciences, surtout la physique? Merci.
Je vois un certain nombre de dangers à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un certain nombre de domaines sociétaux. Je crois que c'est un sujet de recherche, une branche de la recherche en intelligence artificielle à part entière. Une chance qu'on a avec les données astronomiques, c'est que je crois que ce sont des données qui, premièrement, n'ont aucune valeur économique, et puis qui, par ailleurs, bon, quel que soit ce qu'on raconte sur l'univers, ça a finalement assez peu de conséquences sur la société, ce qui est à la fois un problème et une chance pour nous. Donc je ne fais pas partie des gens qui sont les plus inquiets par rapport à l'arrivée d'une intelligence artificielle générale, du moins dans mon domaine. Je vois au contraire de grandes perspectives d'en apprendre plus sur l'histoire et sur l'évolution de l'univers avec l'intelligence artificielle. Maintenant, les dangers que vous évoquez effectivement sur les domaines d'autres domaines d'applicabilité de l'intelligence artificielle, oui, c'est quelque chose dont je pense qu'il faut être vigilant. Oui.
Alors, une seconde, il y a quelques questions intéressantes là sur l'IA, justement, donc on va continuer un peu là-dedans. Quel type de données constitue la base de données du modèle d'apprentissage IA? S'agit-il uniquement de modèles mathématiques ou en plus des données observationnelles?
Alors, il y a deux types d'ingrédients, effectivement, dans l'intelligence artificielle. On a besoin d'un modèle mathématique, c'est en particulier, quand on parle des réseaux de neurones, c'est l'architecture du réseau de neurones, combien de couches on met, combien de synapses on met. C'est tout un art, tout un sujet de recherche en intelligence artificielle, de développer des réseaux de neurones qui sont utiles pour ces types d'applications. Et puis, le deuxième ingrédient, effectivement, sont les données observationnelles. De toute façon, on va vouloir utiliser les données observationnelles, les données d'Euclide en particulier, qui vont être l'entrée de ce réseau de neurones pour répondre aux questions, qui suivront. Donc on aura toujours besoin de ces deux ingrédients, et la question effectivement est de savoir comment les combiner au mieux.
Alors il y a quelqu'un qui demande, comment ferez-vous le tri entre des résultats réalistes et des résultats fantaisistes obtenus par l'IA ?
Oui, c'est toute la question. C'est toute la question, et puis c'était le sujet de notre conférence en 2023, dont je vous parlais. On a vu certains cas en astrophysique et dans d'autres domaines où l'intelligence artificielle a tendance à donner des résultats qui n'ont aucun sens. Mon exemple de l'ours vous le montrait. Une chance qu'on a par rapport à d'autres domaines, c'est qu'on peut se reposer sur tout un cadre théorique et d'analyse des observations bien existants, qui nous permet d'avoir déjà certaines attentes de ce qu'on va mesurer et avec quelle précision on va pouvoir les mesurer. Maintenant, la question de savoir est-ce que je vais toujours réussir à convaincre mes collègues avec un résultat qui est obtenu par intelligence artificielle si eux ne peuvent pas le reproduire avec des méthodes standards, est toujours une question qui est, de mon point de vue, assez ouverte. Et donc, je pense que ça va prendre encore quelques années, peut-être même une décennie, pour réellement convaincre la communauté que ces méthodes ont un potentiel de donner des résultats qui sont aussi robustes que ce qu'on avait auparavant.
Alors, encore une question sur l'IA. Seule la qualité du jeu de données d'entraînement est ultra décisive pour des résultats intéressants en sortie de modèle IA. Qui et comment sont construits vos jeux de données d'entraînement ?
Je ne crois pas que le jeu de données d'entraînement soit la seule chose qui compte pour un modèle d'IA. Il y a aussi le modèle spécifique, l'architecture du réseau de neurones, ou tout un tas d'ingrédients dont on a besoin pour construire une estimation des distributions de probabilité qui apparaissent dans la formule de Bayes dont je parlais. Donc le jeu d'entraînement, cela dit, est un jeu d'entraînement critique, et pour ça, on se base sur la connaissance de la théorie. Il se trouve que pour la cosmologie, c'est globalement la compréhension qu'on a de l'interaction gravitationnelle. Et donc même si c'est techniquement compliqué de simuler l'interaction gravitationnelle sur des ordinateurs, la physique, pour le coup, est bien connue. C'est la physique de Newton et d'Einstein, et donc on sait exactement à quoi s'attendre, et donc on est certain. Pour le cas de l'astrophysique, ce n'est pas le cas dans tous les domaines, mais pour le cas de l'astrophysique, on est bien certain qu'on met des choses qui sont physiquement réalistes en entrée de ces modèles d'intelligence artificielle.
Alors, il y avait une question dans la salle.
Et du coup, dans votre exposé, vous avez expliqué donc la quantité de données, le modèle qui augmente exponentiellement. Et au milieu de tout ça, comment est-ce qu'on fait pour choisir la prochaine observation ?
Ah, c'est une très bonne question. La formule de Bayes a d'ailleurs quelque chose à dire aussi là-dessus. Jusqu'à présent, en astronomie, on se basait plutôt sur l'histoire de ce qui a marché, c'est-à-dire qu'on construisait les relevés. On a commencé par prendre des photos des galaxies, puis par mesurer les spectres. Donc on s'est dit, on va prendre de plus en plus de photos, dans de plus en plus de longueurs d'onde, puis de plus en plus de spectres. Maintenant, il apparaît effectivement que certaines méthodes permettent d'automatiser un petit peu le processus aussi. Ça s'appelle la théorie bayésienne de la conception expérimentale. Et de dire que, étant donné tout ce que je sais et toute l'histoire de l'astronomie jusqu'à présent, je cherche à mesurer spécifiquement l'équation d'état de l'énergie noire, par exemple. Eh bien, comment est-ce que je peux optimiser mon relevé pour mesurer les propriétés des galaxies qui sont les plus intéressantes pour ça ? C'est quelque chose qui commence à pouvoir être automatisé aussi. Ouais. Donc je dirais que c'est, en réponse à votre question, en deux mots, c'est donc deux ingrédients, l'expérience qu'on a jusqu'à présent, plus des nouvelles méthodes qui permettent également de dire quelque chose sur cette question.
Merci.
Alors il y avait encore une ou deux questions sur le chat. Nous sommes gâtés ce soir. Il y a plein de questions intéressantes, à la fois dans le chat et dans la salle, donc c'est très bien. Alors, il y avait une question plus physique. En ce qui concerne la déformation de l'espace-temps, on arrive à le mesurer à très petite échelle, mais sommes-nous capables de l'observer si cette déformation se présente à grande échelle ?
Alors, les mesures de la relativité, les vrais tests observationnels qu'on a de la relativité générale, c'est effectivement à l'échelle du système solaire. En cosmologie, on suppose que la relativité générale est toujours valable à l'échelle de l'ensemble de l'univers, ce qui requiert effectivement une extrapolation qui n'est pas forcément évidente, parce que c'est une extrapolation par plusieurs ordres de grandeur, en termes de distance. Or, si on a une vision un petit peu positiviste des choses, on peut dire que les succès qu'on a rencontrés jusqu'à présent en cosmologie prouvent bien que la relativité générale marche plutôt pas mal à l'échelle de l'univers, puisqu'on a un modèle standard de l'univers. Mais il y a effectivement le fait que ce sont des tests qui sont des tests indirects de notre théorie de la gravitation. Donc on peut tester à petite échelle, c'est des expériences qui sont faites. Les tests à grande échelle, eh bien, c'est de regarder justement l'expansion, la dynamique de l'univers, et c'est ça qui nous renseigne sur la théorie de la gravitation à grande échelle. J'espère avoir répondu à la question.
Je pense. Une dernière question dans la salle ?
Merci. Vous avez dit que c'est nous qui entraînons les réseaux de neurones.
Oui.
Mais quelque chose que je n'ai pas compris, c'est que du coup, on ne sait pas comment ces réseaux de neurones résonnent pour trouver le résultat. L'exemple avec l'ours, c'est ça ?
Oui. On entraîne ces réseaux de neurones et l'entraînement leur crée une forme de langage interne. Mais effectivement, on a du mal à interpréter ensuite ce qu'ils font. Oui. Parce que c'est des systèmes qui ont une très grande complexité, un très grand nombre de paramètres, et que moi je sais raisonner à peu près à 3 dimensions dans cette pièce, mais raisonner à 10 puissance 10, 12 dimensions, ça devient difficile pour mon cerveau. Ouais. Donc c'est difficile pour les réseaux de neurones, c'est difficile pour notre cerveau, et puis on fait des analogies. Cet exemple de l'ours nous montre que nous, on raisonne d'une certaine façon. Le réseau de neurones a l'air de savoir faire des choses, mais de ne pas raisonner exactement de la même façon. Et donc je pense que c'est un défi de regarder quel est vraiment le langage interne et développer une théorie de ce qui se passe dans ces réseaux de neurones.
Bon, eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Florent.
Merci beaucoup.
Et merci à tout le monde.
Avec plaisir.
Merci. Merci d'être venus nombreux. Merci. Et donc, rendez-vous dans un mois à Jussieu pour la conférence de Michel Mayor. Et puis, merci à Jean, à Tancred, à Frédéric qui ont assuré la technique.